Je remercie en préambule les organisateurs de cette journée, de cette demi-journée, de m'avoir invitée. Je me suis ajoutée, ou j'étais ajoutée in extremis à cette manifestation. Et ce n'est pas une communication aboutie, moi non plus, que je vais vous proposer sur la question des banquets et des pratiques alimentaires dans les sanctuaires en Grèce ancienne, mais quelques pistes de réflexion introduites par un titre volontairement provocateur, au menu ou à la carte, pour ce qui concerne donc les banquets, les pratiques alimentaires dans les sanctuaires en Grèce ancienne. Et pour cela, je m'appuierai sur deux dossiers que j'étais amenée à traiter dernièrement. Tout d'abord, les pratiques alimentaires, j'ai traité des pratiques alimentaires dans une cité grecque, qui constituent une étude de cas intéressante, une cité qui a joué un rôle majeur au 8e siècle avant Jésus-Christ dans la circulation des biens et des idées dans le bassin méditerranéen, péninsule italique, en Macédoine et ailleurs. Une cité enfin dans les sanctuaires de laquelle je travaille depuis de nombreuses années, Érétrie sur l'île de Bé. Et deuxième dossier, la question des sacrifices de masse, célébrés dans certains sanctuaires dans le monde grec jusqu'à une époque tardive de l'Antiquité, à l'occasion de certaines fêtes, me fondant donc sur une étude que je mène actuellement sur les hécatombes dans les pratiques sacrificielles antiques, sur les sacrifices publics et le marché de la viande dans les cités grecques. Le banquet dans la cité grecque, la cité au banquet, est un sujet abondamment débattu. Ariane Esposito nous a fait un brillant résumé de l'historiographie de la question, et dont le point de départ est toujours le sacrifice, suivant le postulat que toute viande consommée en Grèce ancienne était issue d'un sacrifice. Suivant ce postulat, que toute viande consommée en Grèce ancienne était issue d'un sacrifice, la recherche sur le banquet dans les sanctuaires grecs s'est engagée sur trois voies principales qui ne se sont pas toujours révélées, je pense, les plus pertinentes. Premièrement, la recherche s'est principalement focalisée sur le sacrifice sanglant. L'enregistrement des données ichtyologiques, malacologiques et archéobotaniques ayant tardé à faire son apparition sur les fouilles dans le monde grec et dans tous les cas dans les ensembles datables des périodes historiques. De ce fait, cette perspective a eu la fâcheuse tendance à restituer une consommation exclusive de viande lors des banquets et ou des repas, quels qu'ils aient été, dans les espaces sacrés. Deuxièmement, on lit encore très souvent que tout sacrifice se terminait par un banquet, un repas communautaire, donc par une consommation immédiate, après le sacrifice, si possible le même jour. Troisièmement, deux cas de figure sont traditionnellement évoqués pour l'écoulement des viandes issues des sacrifices, soit une consommation intégrale des viandes dans le sanctuaire ou à proximité du sanctuaire, ou dans un endroit ménagé à cet effet dans la cité, soit une distribution de parts aux citoyens, soit une combinaison des deux solutions. Archéologie et archéosciences permettent de reconsidérer certaines de ces pistes de réflexion, notamment ce qui concerne la composition des menus dans les sanctuaires. Menus entre guillemets, bien évidemment. C'est une image assez différente qui se dégage désormais, assurément plus vivante et moins figée. Une image déjà bien amorcée dans quelques études récentes, dont je ne retiendrai ici à titre d'exemple, à titre indicatif, que trois, deux de la main de Gunnel Eckroth et une de Robert Parker. Il semblerait d'abord qu'il faille envisager des va-et-vient constants entre le téménos, le sanctuaire, et la cité. D'un côté, on voit entrer du gibier dans le sanctuaire, selon une théorie alléchante, si vous m'excusez l'expression, proposée par Gunnel Eckroth. Donc, du gibier, qui entreraient dans le sanctuaire pour être ajoutés aux viandes issues des sacrifices, à ce moment-là cuisinées sous forme de bouillon pour éviter des différences de goût entre des morceaux de viande issus de la chasse et d'autres viandes issues du sacrifice. Mais aussi, on va entrer du poisson et des fruits de mer, comme le démontrent notamment des études conduites à Corinthe, dans le sanctuaire de Déméter et Corée, dans le cas du poisson, et dans le cas du poisson, mais surtout des fruits de mer, dans deux sanctuaires de la cité d'Érétrie, le sanctuaire d'Apollon d'Aphnéphoros, le dieu Polyade, et celui d'Athéna, au sommet de l'acropole de la cité, que l'on verra tout à l'heure. Donc d'un côté, on va entrer des viandes différentes que celles issues du sacrifice, donc du gibier, mais aussi du poisson et des fruits de mer. De l'autre côté, on constate que les sacrifices de masse, hécatombes et autres sacrifices de nombreuses victimes, fournissaient souvent des surplus de viande considérables, on le verra à la fin de ma communication, bien au-delà de la capacité de consommation d'une cité grecque moyenne, qu'il fallait donc gérer, stocker, conserver, vendre. Donc, un mouvement en sens inverse, des viandes qui entrent dans le sanctuaire, enfin, des aliments qui entrent dans le sanctuaire et d'autres qui en sortent. C'est ce qu'a révélé une étude que j'ai consacrée donc à la question des hécatombes dans les pratiques sacrificielles antiques. Selon ces nouvelles perspectives, les déchets de menducation mis au jour dans les sanctuaires grecs méritent d'être reconsidérés. La première question à poser, bien évidemment, avant celle de la composition des menus, donc menus toujours entre guillemets, est celle des circonstances dans lesquelles les viandes, les poissons, les fruits de mer, les légumineuses, parce qu'il faut ajouter aussi tous les éléments archéobotaniques, les légumineuses, les fruits, les produits à base de farine, dont proviennent les déchets recueillis. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma phrase. Oui, la première question à se poser est celle des circonstances dans lesquelles tous ces aliments ont été consommés. À l'occasion de banquets, lors de repas quotidiens pris dans le sanctuaire par des membres du clergé, par exemple, on ne peut dire, les restes archéozoologiques ne permettent pas, ou carpologiques ne permettent pas, de déterminer les circonstances de leur consommation. Il vaudrait donc mieux parler avec prudence, dans un certain nombre de cas, de pratiques alimentaires de manière générale. Donc le premier cas que j'aimerais aborder, c'est le cas de certains sanctuaires, mise au jour dans la cité d'Érétrie, qui, pour ceux qui ne la situent pas sur la carte de la Méditerranée, se situe donc sur la côte occidentale de l'île d'Eubée, qui longue île qui longe la Grèce continentale, et donc la cité d'Érétrie est tournée en direction de la Grèce continentale, séparée de la Grèce continentale par un bras de mer qu'on appelle le golfe Euboïque. Cette cité d'Érétrie, si je montre cette carte ici, qui reprend les établissements qui ont été fondés par les Eubéens, donc par les Érétriens et leurs voisins, les Chalcidiens, cette cité d'Érétrie est importante au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque qu'on appelle donc, qu'on considère comme étant l'époque de la naissance de la cité grecque, puisque, avec sa voisine Chalcis, elle est partie donc fonder des établissements dans la péninsule italique, tout d'abord sur l'île d'Ischia, à Pitecoussai, puis sur les rives du golfe de Naples, à Cume et ailleurs, et en Grèce du Nord notamment, en Macédoine, à Métone et dans d'autres localités. La cité d'Érétrie a livré, jusqu'à nos jours, donc explorée depuis la fin du XIXe siècle, a livré jusqu'à nos jours une dizaine de sanctuaires que l'on a pu localiser, dont certains ont pu être identifiés comme étant consacrés à certaines divinités, d'autres sont restés anonymes. Et aujourd'hui, donc, je parlerai de trois sanctuaires, les trois sanctuaires qui sont listés en rouge sur ce plan. les deux premiers sanctuaires qui ont été établis dans la cité, dans la plaine fertile dans laquelle s'est implanté l'habitat. Tout d'abord, le sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros, qui a été fondé, selon toute vraisemblance, selon les données archéologiques, dans le deuxième quart du 8e siècle avant notre ère. Un espace sacré voisin qui est resté anonyme, que l'on n'a pas pu, que l'on n'a pas réussi à attribuer à une divinité, même si certains arguments pencheraient en faveur d'Artémis, la sœur d'Apollon. Donc un espace sacré, partiellement fouillé, très partiellement fouillé, qui a été fondé, lui, selon toute vraisemblance, vers 730 avant notre ère. Et au sommet de l'acropole qui domine la cité, un sanctuaire d'Athéna, qui aurait été fondé, lui, plus tardivement, à la toute fin du 7e siècle, et qui a été fréquenté jusqu'à la fin, jusque dans le courant de l'époque hellénistique. Les travaux que je présente ici, qui sont donc consacrés à ces trois sanctuaires érythréens, ont été menés en collaboration avec, pour la partie archéologique, Patrice Méniel, et pour la partie malacologique avec Tatiana Theodoropoulou, que je liste donc sur cette diapositive. Ce que je vais vous dire aujourd'hui résume en fait trois recherches qui sont sous presse et que vous avez sous les yeux sur cette diapositive. Commençons par le premier sanctuaire fondé par les Érythréens, le sanctuaire de leur divinité Polyade, le sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros, dont la publication des vestiges de cette époque, du 8e siècle avant notre ère, la publication est sous presse, sous la direction de Samuel Verdon. Une étude des ossements et des coquillages a livré des résultats tout à fait intéressants. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'état actuel des recherches à Érythrée, seuls les trois lieux de culte que j'ai listés tout à l'heure, qui sont représentés en rouge, ont fait l'objet de prélèvements d'ossements animaux et de coquillages. Pour le sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros, de manière irrégulière, puisque son exploration a commencé à la fin du XIXe siècle, et donc jusque dans les années 90, les ossements animaux, ni les ossements animaux, ni les coquillages n'étaient malheureusement recueillis, comme vous le savez. Je ne vais pas vous détailler le plan des vestiges assignables à l'époque géométrique qui ont été mis au jour dans ce sanctuaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est présence d'un autel sur lequel ont été réalisés des sacrifices, sur lequel ont été brûlés des ossements en l'honneur du dieu Polyade, Apollon très vraisemblablement. Des ossements, particuliers et différents édifices donc se sont venus s'installer tout autour de cet autel. Non seulement des édifices, mais ont été fouillées une série de fosses qui ont livré du mobilier céramique, du mobilier faunique, aussi bien faune terrestre que faune marine. Ce sanctuaire est le sanctuaire, l'aire sacrificielle que j'ai appelé aire sacrificielle nord puisqu'elle est restée anonyme. Donc c'est cet espace sacré qui se trouve juste au nord du sanctuaire d'Apollon, resté anonyme, peut-être consacré à Artémis, a livré également un autel autour duquel on a retrouvé quantité de matériel faunique. Ces deux autels, celui d'Apollon Daphnéphoros et celui de l'aire sacrificielle, ont livré... Ce sont les deux premiers sanctuaires urbains à Érythrée qui ont livré une séquence complète du sacrifice animal au 8e siècle avant notre ère. Tout d'abord, les déchets de l'activité sur l'autel, c'est-à-dire les déchets de la part des dieux, les os qui ont été brûlés, qui ont été calcinés sur l'autel pour que l'odeur, la fumée de ces ossements s'élève en direction du dieu, des dieux. Donc on a retrouvé quantité de fragments de fémur, donc de l'os de la cuisse, de fémur dont les deux extrémités étaient consciencieusement conservées, comme vous le voyez, lors de la découpe, lors de l'extraction de l'ossement de la cuisse de l'animal. Ce sont des fémurs essentiellement de vie caprinée qui ont été recueillis. À côté de ces déchets des os de la cuisse, la part des dieux conservait aussi ce que l'on appelle en grec l'osphus, c'est-à-dire la partie inférieure du bassin, les vertèbres caudales qui étaient brûlées, donc dans le rite sacrificiel grec, sur l'autel. On en voit une représentation ici, sur un autel, vous voyez une queue animale qui est en train d'être brûlée, et sous l'effet de la chaleur, donc l'extrémité de la queue opère une courbe qui est interprétée dans la divination. Donc la part des dieux consistait en os de la cuisse et les vertèbres caudales. À côté de cette part destinée aux dieux, qui était donc calcinée, brûlée à différents degrés, comme vous avez pu le voir sur l'échantillon d'ossements reproduit tout à l'heure sur cette diapositive, à côté de ces déchets issus de la part destinée aux dieux, on a retrouvé bien évidemment quantité d'ossements issus des parts qui ont été consommées par les hommes, donc avec des traces de découpe qui appartiennent à deux phases distinctes, bien évidemment, de la découpe de la carcasse. Tout d'abord, les déchets de boucherie, qui correspondent donc à la phase de préparation des viandes, et des déchets de manducation, donc de consommation sur place, certaines parties anatomiques de ces animaux, donc la phase de rejet des déchets non consommables au moment de la consommation. L'interrogation est évidemment, ici vous avez un schéma qui vous présente une des premières phases du sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros avec son autel lors d'une phase où il n'avait pas encore été englobé de cette enveloppe quadrangulaire que vous voyez sur le plan. Donc un autel qui ressemble à celui que vous avez aperçu tout à l'heure pour la sacrificielle nord, donc circulaire, qui était comblé d'un comblement de terre très probablement dans l'Antiquité, et sur lequel donc on aménageait un foyer pour brûler les ossements en l'honneur de la divinité. Dans les sols qui sont assignables au niveau de circulation de ce sanctuaire, de cet espace, pour rester prudent dans les termes, dans les remblais de certains de ces édifices et dans les fosses que j'ai évoquées tout à l'heure, donc on a retrouvé des ossements animaux assignables donc aux trois catégories que j'ai évoquées tout à l'heure. Les ossements issus de la part des dieux ont été retrouvés quasiment tous en connexion, dans le cas du sanctuaire d'Apollon, avec l'autel, alors que les autres, les déchets issus de la part des hommes, si on peut réduire sous cette expression les déchets issus de la boucherie et de la manducation, ont été retrouvés dans les différents assemblages. L'interrogation est évidemment celle de l'usage des parties des animaux dont des restes ont été enfouis dans les fosses que j'évoquais, piégés dans les sols de circulation ou aux alentours des édifices. La question est de savoir s'il s'agit de restes de banquets qui permettrait d'établir la nature du traitement de ces animaux et de contribuer ainsi à la caractérisation des lieux où les restes osseux ont été trouvés, puisque nous sommes au tout début de la cité d'Érétrie, donc au début du 8e siècle avant notre ère. S'agit-il exclusivement d'un sanctuaire? Est-ce que les limites d'un sanctuaire à cette époque si ancienne étaient vraiment délimitées? Sommes-nous à la frange entre un espace sacré et un espace privé? L'état des vestiges et l'échantillonnage conservé ne permettent malheureusement pas d'apporter une réponse tranchée à cette question. En effet, même dans des conditions plus favorables d'effectifs, de conservation ou de collecte, l'étude des ossements n'apporte pas toujours des éléments décisifs. En ce sens, il faut être conscient du fait que les ossements animaux constituent une source comme une autre, dont il ne faut pas tout attendre et dont les apports les plus probants relèvent de démarches collectives. Et les informations donc livrées par ces ossements doivent, dans la plupart des cas, être croisées avec les informations livrées par les données archéologiques et par les autres mobiliers qui ont été recueillis avec. Dans le sanctuaire d'Apollon, les restes de caprinés dominent en nombre, puis viennent ceux des bœufs, donc on voit apparaître déjà dans la première moitié du 8e siècle des sacrifices et une consommation de viande de bœuf dans ce secteur. En termes de quantité de viande, les bovins, du fait de leur corpulence, sont plus importants, mais les parties retrouvées ne sont pas les mêmes pour tous ces animaux, avec une majorité de quartiers a priori plus comestibles, les épaules et les gigots pour les caprinés, et pour les bœufs, pour les bovins, des têtes que l'on a retrouvées en abondance. J'y reviendrai dans la conclusion. En corrélation avec ce matériel faunique, on a retrouvé bien évidemment quantité de céramique fine, décorée de manière caractéristique des ateliers eubéens, des cratères dont vous voyez des fragments reproduits sur ces diapositives, mais aussi toute une vaisselle destinée à consommer, donc des skiffoïs et d'autres vases similaires. Donc on peut faire une corrélation entre la consommation du vin dans ce secteur et la consommation de viande. L'archéologie fait donc ici défaut pour apporter une réponse tranchée sur la question de la mise en œuvre ou non de banquets à cette haute époque de la cité dans un secteur que l'on considère comme le sanctuaire, déjà à cette époque reculée, du dieu Polyade. Non seulement en raison de la modestie des vestiges recueillis, mais aussi de l'inégalité de l'enregistrement des données au cours de l'exploration du sanctuaire, puisque ce sanctuaire a commencé à être mis au jour à la fin du XIXe siècle. Peut-être les viandes apprêtées étaient-elles consommées sur place, en tout cas certains déchets le prouvent, mais rien ne permet de l'assurer. Rien ne permet de l'assurer que l'intégralité des viandes issues des sacrifices réalisés à cet endroit était consommée à cet endroit. Et rien ne permet non plus d'avancer que les repas étaient communautaires, ni encore qu'ils suivaient directement le sacrifice, puisque l'on sait que la consommation des viandes se faisait en principe au moins 24 heures après l'immolation, si l'on grillait les viandes, pour permettre à la viande d'être suffisamment rassie, surtout dans le cas de la viande bovine. Si on ne fait pas bouillir, si on ne cuisine pas dans un bouillon une viande, je vous défie de manger de la viande qui vient d'être issue d'un animal qui vient d'être abattu. Donc cette donnée est capitale. Cette donnée est capitale non seulement pour l'exemple que je vous montre ici, donc pour cet assemblage érythréen de haute époque, mais aussi pour les banquets de manière générale dans le monde grec, que l'on a tendance à restituer toujours systématiquement dans tous les sacrifices grecs, juste après la mise à mort de l'animal. Et cette donnée doit donc nous forcer à réfléchir, à revoir certainement l'organisation de certains sacrifices de masse, hécatombes et autres. Prenons l'exemple des Panathénées à Athènes, par exemple, où l'on considère souvent que la procession commençait à l'aube pour permettre le déroulement d'un banquet le soir. Dans un cas de sacrifice de masse, comme lors des Panathénées à Athènes, il faut imaginer déjà le temps nécessaire pour abattre une centaine de bovins au sommet de l'acropole. Le temps nécessaire pour découper les carcasses de cette centaine de bovins. Découpe en plusieurs temps. première découpe pour extraire les viscères, trier les abats, trier les pièces de viande, les peaux, etc. Et puis, les 24 heures en tout cas nécessaires pour le rassissement de la viande, sans compter évidemment la cuisson. Revenons à Érétrie, où à proximité de l'hôtel a été mis au jour un assemblage tout à fait intéressant qui était miraculeusement conservé au milieu d'un secteur qui avait été exploré à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et un sondage restait intact à cet endroit-là, tout simplement parce que des fondations de stèles se trouvaient in situ à cet endroit-là et que personne n'avait exploré ce secteur auparavant. Donc, la fouille de ce sondage a livré un feuilletage d'occupation que vous voyez sur cette coupe stratigraphique, qui est cette coupe que vous voyez sur le plan à droite, alors que là, vous avez les fondations, sur cette coupe ici, les fondations du stylobate du temple du 6e siècle, donc du temple d'Apollon du 6e siècle. Dans ce secteur, qui est placé près de l'entrée sud-est de ce que l'on considère comme le premier hécatompédon d'Apollon, le premier temple de son pied d'Apollon. Le feuilletage de niveau d'occupation assignable au 8e siècle a livré une succession de foyers. De foyers qui contenaient des ossements brûlés, divers ossements qui doivent suggérer très probablement la présence de foyers nécessaire pour cuisiner des viandes. Cuisiner des viandes, donc on grillait très vraisemblablement sur l'autel la part du dieu, le fémur, les vertèbres caudales, et la partie cuisine qui concernait la consommation des humains se faisait dans un espace évidemment distinct, contrairement à ce que pensent encore beaucoup de chercheurs qui estiment que l'on cuisinait, que l'on grillait sur l'autel les viandes qui allaient être consommées lors du banquet par les participants au sacrifice. Il faut imaginer donc un espace dévolu au barbecue, pour parler crûment. Donc un espace ici que mes collègues qui ont organisé une exposition sur Érétrie ont reporté sur cette maquette. C'est une maquette qui représente, vous le voyez, le premier hécatompédon, donc le premier temple absidal de 100 pieds de long, avec l'autel devant, que vous retrouvez ici. Et là, vous voyez, nous nous retrouvons le long du mur sud-est de ce temple avec un foyer qui était symbolisé par ce tas de bois sur lequel s'apprête à poser une broche un participant. Et voilà quelques exemples qui permettent d'illustrer vraisemblablement le type de foyer que l'on a reporté à l'époque moderne, type de foyer que l'on a retrouvé dans le secteur du sanctuaire d'Apollon d'Aphnéphoros. Le sanctuaire d'Athéna, qui a été retrouvé au sommet de l'acropole d'Érétrie, a livré des assemblages très complexes à interpréter, puisqu'il s'agit d'un sanctuaire qui a été profondément remanié au IIIe siècle, au début du IIIe siècle avant notre ère, et dans les remblais duquel, par le ravalement, vous le voyez ici, un ravalement important de l'esplanade rocheuse, et ce sanctuaire que vous voyez, donc qui se trouve vraiment sur l'endroit culminant du plateau sommital de l'Acropole, avec un plan plus détaillé ici que je ne vais pas, commenter davantage, simplement pour vous montrer la présence de cette esplanade ravalée dans le rocher que l'on a poursuivie à l'ouest par l'installation d'un important terrassement en terre et en terre rapportée qui proviennent de l'endroit puisqu'elles contiennent des mobiliers assignables aux phases précédentes d'occupation du sanctuaire avec des offrandes, du mobilier céramique et des fragments osseux. Et ce que je vais considérer aujourd'hui, c'est un sondage qui a été fouillé dans l'angle sud-est du sanctuaire, qui constitue un remblai important, un remblai qui, vous le voyez, était destiné à combler ces anfractuosités rocheuses très, très inégales. Et c'est un ensemble, un assemblage qui a livré 20 000 tessons de céramique, 6 693 ossements qui correspondent à 18 kg d'ossements sur un total de 44 kg d'ossements pour le total du sanctuaire et 556 restes d'invertébrés marins qui correspondent donc à 7,6 kg d'invertébrés marins. Ces remblais étaient, vous le voyez, constitués donc quasiment à certains endroits de davantage de mobilier que de sédiments. Ce qui m'intéresse ici, ce ne sont pas les éléments fauniques terrestres qui sont d'un faciès caractéristique d'un sanctuaire d'époque hellénistique avec une majorité de bovins. Ce qui m'intéresse, c'est la forte proportion de coquillages qui a été mise au jour dans cet assemblage, puisque l'on a retrouvé, vous l'avez vu avec les poids tout à l'heure, la quantité, un certain nombre de coquilles et des coquilles qui sont issues d'espèces diverses et variées. Vous voyez que ce sont les pourpres, les murex qui sont les plus importants en représentation. Des murex que Tatiana Theodoropoulou a montrer qu'en fait, ils ne sont pas issus d'une fabrication de couleurs. Il n'y en a pas assez pour une fabrication de couleurs. Et elle a décelé des traces de cassures et des traces d'extraction du mollusque qui se trouve à l'intérieur, caractéristique d'une consommation. C'est ce qui a été relevé aussi sur certains autres coquillages. Et dans le sanctuaire d'Apollon d'Aphnéphoros, pour revenir au premier sanctuaire de la cité, on a retrouvé aussi un nombre important de coquillages, parmi lesquels le plus important, et malheureusement je n'ai pas de photographie de ce coquillage, c'est la nacre de Méditerranée. Donc, il s'agit d'un grand coquillage, un coquillage qui a une forme triangulaire, et qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur, qui a donc une chair abondante à l'intérieur, et qui a, selon toute vraisemblance, donc été consommé en grande quantité dans le secteur du sanctuaire d'Apollon. Et les assemblages de ces coquilles ont été retrouvés en connexion avec les restes fauniques que j'ai évoqués tout à l'heure. Avant de conclure, j'aimerais considérer très brièvement la question des sacrifices de masse pour apporter une autre dimension aux réflexions que je vous propose aujourd'hui. Puisque dans le monde romain, des calculs ont été établis sur la consommation, sur les portions, sur les quantités de viande qui pouvaient être fournies par un sacrifice ou qui pouvaient servir donc à nourrir un important nombre de citoyens. Dans le monde grec, certains calculs ont été établis, mais personne n'avait jusqu'à présent essayé de réfléchir à la quantité de viande que pouvait fournir une hécatombe, donc un sacrifice de 100 bœufs, donc une hécatombe dans le sens stricto sensu, puisque très souvent dans la littérature grecque, on voit que le terme hécatombe est utilisé aussi pour désigner des sacrifices solennels d'une dizaine, d'une vingtaine ou d'une trentaine de victimes, sans que l'on ait forcément donc 100 animaux immolés en même temps, et parfois même, on utilise le terme d'hécatombe, vous le savez certainement, pour désigner des sacrifices d'autres espèces animales que le bœuf. Mais dans un certain nombre de cas, on a de toute manière, on a une attestation de sacrifice de 100 bovins ou d'un chiffre approchant dans certains sanctuaires grecs. Les comptes de ces sanctuaires nous le prouvent et d'autres sources. Donc, si l'on prend les données mathématiques livrées par nos collègues pour le monde romain, par John Scheid et Patrice Méniel, qui, pour le bœuf, estiment donc que la quantité de viande consommable pour un bœuf romain équivaut à environ 300 kilos, si l'on considère la stature des bovins grecs qui correspondent grosso modo à la stature des bœufs romains, on voit qu'en multipliant par 100 bovins, nous arrivons à 30 000 kilos de viande qui sont fournis donc par une hécatombe. 30 000 kilos de viande. Alors après, toute la discussion évidemment réside dans le poids des portions qui sont consommées, si elles sont consommées sur place, s'il s'agit d'une distribution qui est proposée aux citoyens. Alors Patrice Méniel et John Scheid proposent des portions de 100 grammes. J'ai multiplié par deux cette quantité en 200 grammes. Pierre Brulé, lui, propose 350 grammes. Donc, bon, chacun peut y aller de son hypothèse. Mais même, vous voyez, avec des portions de 200 grammes, vous voyez que nous pouvons arriver à une distribution de 150 000 portions, ce qui est évidemment beaucoup trop important pour certaines cités moyennes dans lesquelles on sait que des hécatombes stricto sensu étaient réalisées. Alors bien évidemment, certains règlements de cité grecque nous précisent que les citoyens ne recevaient pas une portion qui était à consommer tout de suite, mais un certain poids de viande qu'ils pouvaient emporter cru à la maison, mais jamais on pourra écouler donc ces importantes quantités dans certaines cités grecques, ce qui fait qu'il faut maintenant réfléchir à la question de l'écoulement de cette viande, l'écoulement de cette viande à l'extérieur du sanctuaire par distribution. Et même par distribution, il faut essayer de raisonner sur des questions de stockage, de conservation, de salaison et autres, sur lesquelles on n'a pas encore beaucoup avancé la réflexion dans le monde grec. Donc, partage de viande crue, partage de viande cuite, pardon. Il faut avancer donc dans cette direction les réflexions. En conclusion, j'aimerais reprendre plusieurs points. Tout d'abord, la notion de reste de banquet dans les sanctuaires grecs reste assez floue. Je pense l'avoir montré en dissertant sur ces deux exemples extrêmes, donc des assemblages assignables haute période dans une cité grecque et d'autres assemblages qui concernent des sacrifices de masse célébrés dans les grands sanctuaires jusqu'à très basse période. D'autant plus que certains repas collectifs peuvent se traduire par des dépôts d'os et de coquilles qui s'avèrent peu disert sur leur origine. Dans le cas d'Érétrie, une autre difficulté est qu'il n'est pas possible de donner une liste des parties comestibles d'un animal, ni d'en établir une hiérarchie ex nihilo. En effet, nous ne connaissons pas là non plus, comme l'a souligné Sabine Fourier tout à l'heure dans le contexte chypriote, nous n'avons pas d'éléments de comparaison dans les contextes d'habitat. Donc, tant qu'on n'a pas d'éléments de comparaison dans les contextes d'habitat, on ne peut pas avancer dans la réflexion. Et il faut être conscient du fait que les préférences alimentaires varient, que ce sont une expression culturelle de premier choix, soumise à des contraintes économiques et sociales, avec des effets de mode non négligeables. Sans indication sur ce qui était consommé dans l'espace domestique, il est difficile de juger de la qualité des morceaux de viande dont les restes ont été collectés dans les sanctuaires ou à leurs abords. Dans le sanctuaire d'Apollon, les restes de caprinés dominent. Puis viennent ceux des bœufs. En termes de quantité de viande, les bovins, du fait de leur corpulence, je l'ai dit tout à l'heure, sont plus importants. Mais les parties retrouvées ne sont pas les mêmes pour tous ces animaux. Donc avec une majorité de quartiers, a priori plus comestibles, j'ai déjà dit, épaules et gigots pour les caprinés, et des têtes plus abondantes pour les bovins. Sources littéraires, documents épigraphiques et peintures vasculaires témoignent que la tête des animaux sacrifiés était consommée par les anciens Grecs, surtout celle des bovins, pour la cervelle, la langue, les joues. On a des attestations de consommation de ces éléments. Après une découpe précise, qui est parfois précisée dans certains règlements. Donc on précisait dans certains règlements, certaines cités grecques, la découpe de la tête. Et ces éléments, ces parties de la tête, étaient souvent données comme rétribution sacerdotale. Donc les déchets que l'on a retrouvés dans le sanctuaire d'Apollon sont-ils assignables donc, à une part qui aurait été donnée à certaines personnes en particulier? Point d'interrogation. Où elle était placée parfois comme mets de choix sur la table d'offrande. La faible représentation que l'on a pu relever des os d'épaule et de cuisses n'incite pas à évoquer des restes d'une consommation de viande de qualité. Mais l'absence d'informations sur les rejets domestiques dans le reste de la cité, sur lesquels que j'ai souligné tout à l'heure, et sur l'exploitation des restes de carcasses pour l'artisanat, qui nous échappe encore totalement, la tabletterie par exemple, ne permet pas de conforter cette impression. Donc il y a beaucoup d'inconnus qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on raisonne sur les restes fauniques. Donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Érétrie émerge. Des rites et des gestes se mettent en place, que nous devrons désormais croiser avec des données issues de contextes d'habitat lorsque nous serons en mesure de fouiller sur ce site de tels assemblages avec les méthodes actuelles d'enregistrement sur le terrain, puisque les contextes d'habitat qui ont été mis au jour jusqu'à présent à Érétrie l'ont été sans souci d'enregistrement des restes osseux, des restes malacologiques et des restes paléo-environnementaux. Donc les pratiques déjà difficiles à déceler aux époques plus récentes, où les cultes suivent des règles pourtant bien définies dans chaque cité, le sont encore plus à si haute époque, surtout à une époque où nous sommes privés de documents écrits. Donc dans le contexte eubéen, nous continuons l'enquête avec Patrice Méniel et Tatiana Theodoropoulou, visant désormais aussi à une mise en perspective en regard du rôle de vecteur culturel qu'a joué la cité eubéenne en Méditerranée tout au long du 8e siècle avant Jésus-Christ. Puisque les Érétriens n'ont pas manqué d'apporter avec eux dans les terres étrangères dans lesquelles ils se sont installés, je vous ai brièvement montré sur la carte tout au début, donc péninsule italique, en Macédoine et ailleurs, leur culte et leurs rites, donc leurs pratiques alimentaires, que l'on n'a pas retrouvé pour l'instant, puisqu'aucun contexte religieux n'a pu être fouillé, ni à Pitecoussai, donc ni à Ischia, ni dans le golfe de Naples. Autre angle d'approche abordé, celui de la quantité de viande fournie par les sacrifices de masse. Les pratiques alimentaires autour de la viande dans le monde grec restent encore mal connues. Le postulat émis dans les années 1970 sur l'origine sacrificielle obligée de toute viande consommée par les Grecs dans l'Antiquité continue à faire foi et c'est tout à fait normal. L'étude des sacrifices massifs soulève bien des questions qui se succèdent en cascade, et vous ne manquerez pas peut-être d'en poser tout à l'heure. Il appartient dans les recherches futures donc, de poursuivre l'exploration de ce domaine encore mal connu. Dans les sources littéraires, épigraphiques, archéologiques et archéozoologiques apportent de précieux éléments de réflexion sur les pratiques alimentaires carnés, mais pas seulement, des anciens Grecs. Et une autre dimension donc doit être désormais ajoutée à l'alimentation carnée avec la présence d'autres mets, poissons, fruits de mer, légumineuses, fruits, produits à base de farine, etc., sur la table du banquet, si banquet il y avait, ou en tout cas des repas qui étaient pris dans les sanctuaires. Donc, si banquet il y avait, si repas il y avait dans ces sanctuaires, il faut ajouter des consommations à la carte, entre guillemets, bien évidemment, composées de viande issue du sacrifice ou non, selon les théories de Gunnel-Eckrodt, avec l'apport de viande de gibier, mais aussi de mets apportés de l'extérieur, des coquillages qui n'ont rien à voir avec le sacrifice. Alors, apportés de l'extérieur par qui? Par les particuliers, est-ce que chacun apportait des coquillages, des fruits de mer et d'autres aliments pour accompagner les viandes qui étaient consommées dans le sanctuaire? Point d'interrogation, évidemment, puisque je me contente de poser de placer des points d'interrogation. Donc voilà, reste à comprendre les rouages de l'activité économique, religieuse et sociale qui gravitaient autour de la cuisine du sacrifice. Donc le sacrifice lui-même, la consommation, mais aussi la production de viande dans le cas de sacrifice de masse, le transport, la viande, la vente de viande, préparation de salaison, fumage de pièces de viande, etc. Donc voici quelques pistes de réflexion que je serais bien aise de discuter avec vous. Je vous remercie.
De la quantité des portions, de la taille des portions. Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir la céramique commune, les contenants dans la nourriture? J'ai l'impression qu'on peut avoir pour estimer la quantité.
Le problème étant qu'on travaille dans des assemblages, dans le contexte du sanctuaire d'Apollon, on travaille dans des assemblages donc, qui ont été fouillés à des époques différentes. Et bon, alors, on ne gardait pas forcément les ossements dans les anciennes fouilles, mais on gardait encore moins la céramique culinaire. Ou parfois, quand les ossements ont été gardés, la céramique culinaire a été prélevée par les fouilleurs, mais n'a pas forcément été conservée au musée après pour qu'on puisse l'étudier. Donc, on a aussi ici un hiatus de données archéologiques qui est regrettable, mais.
La vaisselle fine, le fausse moyen, il contient quelques quantités, des choses comme ça.
Alors là, je ne peux pas répondre, c'est pour moi qui me suis occupée de la céramique, mais de toute manière, cette vaisselle a toujours été considérée comme étant une vaisselle destinée à la boisson. Est-ce qu'il faut lier la consommation de viande à la consommation de vin? C'est toute la question de la définition du symposium. Symposium étant que la consommation de vin avec quelques friandises. Symposium étant la consommation de vin avec une consommation de viande issue de sacrifices. Disons qu'on n'arrive pas à définir vraiment aussi le terme de banquet, le terme de symposium en grec, mais aussi le terme de banquet en français, puisque j'ai participé à un atelier qui avait été organisé à Dijon par Ariana Esposito et ses collaborateurs, où finalement tous les autres intervenants n'ont parlé que de boissons. Et avec Patrice Méniel, nous sommes retrouvés les deux seuls à parler de la partie consistante du. Consistante, ça dépend de quel côté on se place, bien évidemment, mais de la partie nourriture du banquet, alors que le terme était banquet, non pas symposium dans le titre de l'atelier. Donc, je crois que c'est aussi une question de définition, et il faudrait que l'on raisonne davantage en mettant en relation tous les mobiliers. tout l'immobilier et que l'on cesse de travailler chacun dans son coin, une personne qui travaille sur les ossements animaux, une autre sur le matériel malacologique, puisqu'on distingue aussi, on compartimente aussi, et puis une personne qui travaille sur le mobilier céramique. Et malheureusement, ce n'est pas encore toujours évident.
Justement, on essaye dans Pralim, on essaye de
et oui.
réunir des disciplines différentes, des chercheurs qui travaillent sur des matériaux différents pour essayer que ça, de créer des réflexions qu'on n'a pas forcément quand on ne sait pas très bien comment vont être abordés certains types d'interviews, de reste par son collègue.
Vous avez une question. C'est un exemple simple, ça serait plutôt de la boucherie que de la cérémologie. Vous disiez qu'il y avait une nécessité de laisser rassir la viande pendant 24 heures. J'étais toujours surpris au Moyen-Orient, quand ils égorgent un mouton, dans la demi-heure qui suit, ils sont en grippe. Donc, est-ce qu'il y a des textes qui disent que les Grecs laissaient rassir la viande?
Non, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui le précise, effectivement.
Je ne me rends pas compte pour les bovins, pour le bœuf, mais c'est vrai que le mouton, c'est pas...
Le mouton, oui, mais le bœuf...
Le mouton est débité immédiatement, soit pour être mangé grillé, soit pour être mangé bouilli.
Voilà, alors bouilli, il n'y a pas de problème, le bouillon...
C'est rôti ou grillé.
Non, mais le problème, en fait, est relatif au bovin.
J'ai une question sur les abats.
Oui.
Est-ce qu'on a des idées, parce que ça peut être consommé tout de suite, justement. Est-ce qu'on a une idée de ce que deviennent les abats?
Les abats, en général, sont grillés sur place. Alors, c'est vraiment l'aliment que l'on consomme sur place, et surtout, sauf erreur, je me demande si on l'a pas, c'est le seul élément de viande que l'on voit représenté sur les vases grecs en train d'être grillé en-dessus de l'autel. On voit souvent sur les vases à figure noire et à figure rouge grecques, essentiellement attiques, au-dessus de l'autel sur lequel brûlent les ossements et la queue en train de se contorsionner, on voit des officiants qui tiennent des longues broches sur lesquelles sont amalgamées des masses informes que l'on interprète comme des abats, mais on ne les interprète pas par hasard comme des abats, c'est en se référant aux poèmes homériques, où le poète précise bien chaque fois, distingue deux cuissons différentes, c'est-à-dire les abats sur des longues broches à cinq fourches, à cinq pointes, au-dessus de l'autel, alors que les autres viandes sont grillées ailleurs. Donc les textes homériques précisent aussi bien qu'on ne cuisinait pas, on ne grillait pas directement sur l'autel les autres viandes. Mais les abats, on en a donc une attestation de grillade tout de suite sur l'autel, et très forcément peut-être, si dans le cas où l'on consommait vraiment un banquet juste après le sacrifice, en attendant que l'animal soit brûlé, comme à la Pâque grecque, comme lorsque l'on cuisine un mouton, en attendant que la viande soit grillée, on patiente en mangeant des mésédès, enfin des entremets, dont les abats, et peut-être les fruits de mer, tous ces autres aliments qui sont apportés au sanctuaire sont là pour faire patienter les convives. Mais pour les abats, on a aussi des inscriptions qui nous attestent de la vente d'abats. Donc ça veut dire que les abats devaient être conservés pour être vendus sur le marché. Au pire, on a des inscriptions.
Et le sang?
Oui. Ah, bonne question. Très bonne question. Le sang était très vraisemblablement récupéré, tout était récupéré dans les animaux, ça c'est clair.
On n'a pas de témoignage clair de ce qu'on pourrait
faire. On peut faire du boudin, on a des attestations de boudin chez Aristophane et chez d'autres auteurs, donc on en faisait...
Sur la reconstitution.
Ah oui, non, je ne suis pas du tout d'accord avec cette reconstitution. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette reconstitution. Moi, je voulais montrer simplement à titre anecdotique. Et surtout, je ne suis pas d'accord avec cette reconstitution parce qu'on ne me fera pas croire que l'on découpait les animaux sur l'autel et qu'on salissait, on souillait l'autel ainsi avec tout ce temps. C'est pas non. Non, non, pas du tout. Je ne cautionne pas.
Bon, je pense qu'on va continuer parce que le temps passe et on a perdu beaucoup de temps au début. Merci beaucoup. Eh bien, on va avoir une vision d'un archéozoologue maintenant, de Aurélien Crozieux, qui va nous présenter des contextes proto-historiques de Grèce et de
Grèce. Je coupe l'enregistrement.